Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de suivre les parcours de vie d'Olivier et Catherine. Catherine et Olivier, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors c'est un couple et en même temps on va voir que votre trajectoire, bien sûr, vous êtes un couple depuis 42 ans, vous êtes mariés ensemble.
Oui, c'est ça.
Mais vos trajectoires sont très différentes et vous avez vécu même au plan spirituel, j'ose le dire là en commençant sans doute, un parcours qui vraiment vous est propre à l'un et à l'autre. Mmh. Catherine, vous nous raconterez l'histoire de votre conversion qui part d'une très très grande douleur, celle d'une maman qui perd son enfant, son petit dernier. Et vous, Olivier, j'ai presque envie de vous provoquer en commençant en disant que c'est presque une tradition familiale que la question de la foi, croire en Dieu. Vous avez un peu commencé comme ça tout à l'heure en micro en disant « mais c'est une transmission de ma maman
hein ». Ben, tout à fait. J'ai des origines avec des familles parfois un peu compliquées. Et effectivement, les hommes doutent un peu. J'ai eu des tantes qui étaient chrétiennes, qui priaient, qui nous faisaient prier. Et c'est en était même parfois pour mon éducation un peu gênante. Mais j'ai suivi ma mère et j'ai suivi ma mère à l'église chaque semaine. C'était devenu une habitude, même une nécessité. Et je m'étais impliqué dans l'église en chantant, dans la chorale.
Vous avez eu une vie professionnelle dans la rationalité, puisque vous avez fait du contrôle de gestion dans des très grands groupes. Donc, c'est pas très spirituel. Peut-être qu'il y a une place pour le spirituel, justement, pour ceux qui sont comme ça, très très happés hein, par ce monde de la rationalité, de la gestion, de la finance.
Oui. Alors, j'ai embrassé ce métier de contrôleur financier, mais effectivement, ça m'a valu quelques difficultés parce que je n'étais pas dans la rigueur absolue et j'avais plutôt une âme d'artiste ou de papillon. Et bon, c'est pour ça que à 60 ans, j'ai pris une retraite peut-être anticipée. Je me suis dévoué pour des occupations plus personnelles telles que la peinture artistique et puis aussi l'apiculture.
Vous êtes pèlerin de Lourdes et pourtant, il y a quelques années, je pense que vous-même, vous n'imaginiez pas être un jour là, à Lourdes, à faire des processions, à vivre les temps spirituels proposés par le pèlerinage. Vous êtes au sein du pèlerinage du Rosaire, je le précise. Catherine, on peut dire quand même, vous concernant, que vous n'êtes pas vraiment, à l'origine, il y a encore quelques années, une grenouille de bénitier.
Non, mais je suis tombée dans le bénitier quand même, mais je ne l'étais pas du tout. Enfin, je suis d'une famille très très catho, très bien comme il faut, parfaite. On allait à la messe et élevée par les dominicaines de A à Z. Donc, moi j'avais perdu la foi le jour de ma première communion. On m'avait dit que c'était extraordinaire de recevoir Jésus dans son cœur. Et puis, j'ai reçu la communion, mais j'ai rien su, quoi. Je me suis désintéressée complètement du sujet à ce moment-là, donc vers 7 ans. Donc après ça, c'était le vide.
Donc, ce désintérêt a duré des années et des années.
Des années, oui. Je n'étais pas contre, hein, mais je me suis désintéressée du sujet.
Vous avez tous les deux eu 4 enfants. Ils sont grands maintenant. Et il en reste 3. Enfin, il en reste 3.
Oh,
Arthur est toujours là. Oui, Arthur est toujours là, mais il n'est pas là avec vous pour les fêtes de famille où il est là différemment.
Il veille sur nous, oui.
Oui, il veille sur vous. Quelle douleur pour une maman que de perdre un enfant. C'est difficile, c'est compliqué d'abord.
C'est difficile, c'est toute sa vie qui est une douleur, je dirais, parce que voir son enfant s'amenuiser de jour en jour et souffrir, c'est pas facile.
Arthur est mort à l'âge de 16 ans.
Oui.
Oui. Bon, vous avez les larmes aux yeux, Catherine.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On évoque des choses. Voilà.
Mais on va voir qu'après, l'histoire continue. Non, mais il faut qu'on en parle.
Mais c'est vrai que j'ai les larmes aux yeux, mais c'est en même temps très beau. Ça n'était pas que tristesse de l'avoir. D'ailleurs, quand j'ai eu ça, quand j'ai appris sa maladie, ce qu'il allait en être de sa vie, je me suis dit, il faut mettre de la joie autour de lui. Il faut, même s'il y avait toujours en filigrane, il y avait sa mort tout, en permanence. Hein, c'était, mais je voulais que sa vie soit remplie de joie, de bonheur et que ce qu'il soit aimé.
Est-ce qu'il a vécu, Arthur, une sorte de calvaire quand même, parce qu'une maladie rare comme la sienne. Vous pouvez nous préciser, d'ailleurs.
En fait, c'est une maladie de San Filippo, donc c'est une maladie génétique. Il lui manque un enzyme qui était censé faire le ménage dans les cellules. Comme le ménage n'était pas fait, les cellules s'encrassaient, notamment les organes nobles tels que le cerveau. Donc il y a une paralysie spastique qui s'est installée. Et donc, au début, il était jusqu'à 3 ans, il était très bien. Après ça, dans 3 ans, on l'a diagnostiqué. Et puis, il était très agité, ne dormant ni le jour ni la nuit. Donc ça, il faut être un peu... Voilà, il faut suivre. Et puis après, il y a la paralysie spastique qui s'est installée. Donc là, effectivement, devoir diminuer, voir ses derniers pas, ses derniers rires, c'est ça. Hein.
Et donc, il a beaucoup souffert.
Il avait beaucoup, oui, des sortes de crampes et des trucs comme ça. À certains moments, c'était pénible. Du coup, on l'endormait. Hein. Voilà, c'était un peu son... Le rythme.
Merde. Olivier, je n'ai pas été très sympathique tout à l'heure en parlant uniquement de la douleur de la maman, parce que le papa aussi, il vit cette douleur intensément, mais différemment, évidemment.
Moi, j'avais mon travail, donc je quittais le matin pour ne revenir que le soir, donc j'avais une vie extra-familiale où pendant 8-10 heures, je ne pensais pas à mon fils. Bon, il y a eu des mamans... heureux avec lui. C'était un enfant avec beaucoup d'émotions. Il savait, par moments, éclater de rire devant quelque chose de drôle. Il savait être... à son départ, on l'a appelé le petit prince. On lui a fait une cérémonie de départ formidable. On a été extrêmement bien entouré. C'était le petit Saint-Exupéry, c'était le petit prince.
Mais sa mort, c'était extrêmement douloureux, effectivement, de voir mourir un enfant, surtout dans ces conditions. Mais en même temps, c'était très beau. Il planait quelque chose d'extraordinaire sur cette maison où cet enfant est en train de mourir. On l'avait installé dans le salon afin que, et puis tout le monde tournait autour et il y avait plein de gens qui passaient et des gens qui ramenaient des plats. Il y avait une ambiance extraordinaire. Je crois qu'il y avait déjà quelque chose du Saint-Esprit qui devait régner là-dessus parce que il y avait quelque chose. Et pourtant, c'est pas facile, hein.
Vous êtes tout de même dans un état de révolte à ce moment-là, quand même.
Je n'ai jamais eu de révolte, en fait. C'est assez curieux.
Pas de révolte. D'incompréhension.
J'en sais rien. Je me dis, mais non, ni même d'incompréhension. Je dis, c'est les lois de la génétique. Donc, les lois de la génétique, il a perdu.
C'est la loi du hasard, et ainsi soit-il.
J'en ai pas voulu au monde entier, moi, jamais.
Ainsi Dieu le voulait.
Oh, moi, je me suis pas dit ainsi Dieu le voulait. Je dis, c'est le hasard des choses et il faut assumer de façon... Le pauvre, il n'a rien demandé. Il faut lui proposer la plus belle vie qu'il puisse avoir.
Il a occupé, j'imagine, une grande place dans la famille, dans la vie de la famille, Arthur, pendant des années. Comment réagissent vos autres filles, vos 3 filles, Gaëlle, Sixtine et Tiffaine?
Alors mes filles étaient assez âgées. Tiffaine doit avoir 11 ans, 11, 13 et 15. Donc c'est un peu des mères.
Oui.
C'était pas vraiment...
Là, les âges que vous donnez, c'est au moment du décès.
De la naissance.
De la naissance.
au moment de la naissance.
Donc elles jouaient le rôle de petite maman.
Oui. Donc c'était vraiment des mères. Donc et c'est vrai qu'elles ont vécu ça, que je suppose comme des mères. Et bon, ça, elles ont été très sympas avec lui, parce que quelquefois c'était un peu pénible au début quand il mettait tout par la fenêtre. Son temps était très très vivant, quoi. Quand il marchait, il était très très vivant. Donc, mais elles ont été très sympas, les filles.
Un peu des mères comme des vierges qui prenaient leur enfant douloureusement, mais qui le berçaient avec beaucoup de tendresse. Hein.
Dans ces périodes, est-ce que la question spirituelle a une place ou pas dans vos vies?
Moi non, Olivier.
Moi non plus. Je voudrais avouer peut-être que après avoir eu nos trois enfants, on avait à peu près la quarantaine. Et bon, je dirais, tu voudras peut-être me contredire, mais notre couple fonctionnait pas forcément très très bien et nous cherchions un équilibre. Et je dirais que la survenue de cet enfant qui a naître et qui se trouvait malade et qu'on l'ait su le jour de ses 2 ans ou 3 ans, ça nous a fait un choc, mais ça nous a dans un sens un peu ressoudé, parce que face à l'adversité, il y avait quelque chose, un sujet de prime importance.
Oui. Mais je réitère ma question, au plan spirituel, il y avait un grand vide. Catherine, vous répondez vraiment directement non, ça n'avait pas de place.
Non.
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 Moi, vous non. étiez dans un quotidien où il fallait faire des choses, accompagner ouais. les enfants, faire en sorte que la maison tourne. Et puis vous tourne, êtes une femme fallait... active, on le sent, hein, vous oui, avez de l'énergie. Oui. Quoi.
Bon, j'ai fait beaucoup de bénévolat, je ne travaillais pas, mais j'ai fait beaucoup de bénévolat à droite à gauche. Mais parce que j'avais besoin d'être souple sur mes horaires, moi, de pouvoir assumer Arthur quand il fallait.
Et Catherine, c'est toujours interdit de pleurer devant son enfant. C'était important que Arthur ne voit pas vers quel avenir il se rendait.
Nous allons marquer une pause dans cette émission, si vous le voulez bien, Catherine et Olivier. Et juste après, vous nous racontez, par exemple, Catherine, la conversion que vous vivez quand même. Mm-hmm. Histoire qu'il faut entendre. C'est en Terre Sainte que ça se passe. Hein.
Voilà.
Vous nous racontez ça juste après la pause. À tout de suite.
Présence.
Face aux chrétiens.
Hommes politiques, grands patrons, acteurs de l'Église répondent chaque semaine aux questions de Radio Notre-Dame, La Croix et RCF dans Face aux chrétiens.
Face aux chrétiens sur Radio Présence, le vendredi à 10h et le samedi 13h10.
De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nos invités, c'est vous, Catherine et Olivier. Catherine et Olivier Mott, vous êtes mari et femme, vous avez 4 enfants, vous avez eu 4 enfants, vous nous avez raconté dans la première partie de l'émission la grande douleur de la séparation d'avec Arthur qui est décédé à l'âge de 16 ans, votre petit dernier, et on en est resté là. C'est-à-dire face à cette immense question, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est un séisme dans une vie quand on perd un enfant. Et juste avant la pause, je disais, il va se passer quelque chose au plan spirituel. Jusque-là, il y a une sorte de vide, et ce vide va se remplir. Catherine, alors que vous devez partir au Maroc, c'est pas au Maroc que vous allez vous rendre.
Eh ben non.
C'était des vacances prévues au Maroc, c'est ça?
On nous avait il y avait des vacances prévues, mais enfin, c'était juste après la mort d'Arthur, hein, une semaine après la mort d'Arthur. Donc on partait au Maroc et une amie passe à la maison et nous dit, je pars en Terre Sainte. Moi, la Terre Sainte, moi, je pars au Maroc, c'est sympa.
Et juste à ce moment-là, je dis à notre ami qui venait nous rendre visite, Écoute, moi ça m'intéresse beaucoup, j'ai toujours voulu y aller, est-ce qu'il y a de la place? Et elle m'a dit non, il y a plus de place, mais je vais me renseigner. Et dans les 24 heures, elle nous rappelle pour nous dire non, il y a un couple qui s'est désisté, qui ne peut pas y aller, vous pouvez vous y rendre.
Mais vous Catherine, vous voulez y aller?
Ah bah non,
en Terre
pas
Sainte,
du tout,
vous voulez aller au Maroc?
Jamais j'ai imaginé, bah, on est allé au Maroc, on est revenu, c'est au Maroc, on a eu le coup de fil en disant...
Ah oui.
Bon, non, jamais imaginé ça. Non, non. Jamais, vous... pas un seul instant de ma vie, j'avais pensé à aller en Terre Sainte.
Et donc, finalement,
j'ai accepté,
vous y allez.
Et j'ai accepté parce que ça faisait plaisir et que je suis quand même pas une bonne fille.
Ça fait plaisir
ça
à Olivier.
Ça faisait plaisir à Olivier, je suis quand même une bonne fille. Et puis je me dis que je vais rentrer, qu'est-ce qui va me rester? Ranger la femme en chambre de mon fils, bof, voilà. Donc on est parti là-bas.
Alors là-bas, que se passe-t-il?
Là-bas, je suis partie avec les pieds de plomb. Qu'est-ce que je vais faire? Groupe improbable. On arrive à Tel Aviv, on était dans un quartier, hôtel pourri. Qu'est-ce que je fais là? Parce que j'avais émis l'idée, dans le fond, je vais rester à Tel Aviv, je vais aller au bord de la mer, je vais me faire bronzer, ça va être cool.
Et puis le lendemain matin.
Et puis je dis, c'est pas grave, j'irai faire les souks avec les copines. Et puis.
Le lendemain matin, on prend le bus. Et le prêtre qui nous accompagnait dit on va chanter. Et on se met tous à chanter dans le bus.
Ouais, non, des chanter, des petites voix aigrelettes, la prière du matin. Alors je dis, c'est pas possible parce que je suis tombée. Ça va pas du tout cette histoire.
Oh, ça commence quand même mal.
Ça commence mal. Puis alors, surtout au début, on arrive en Israël, on traverse le désert, du reg, du caillou, de la caillasse, des voitures explosées. Enfin, ça fait pas vraiment envie. On dit, qu'est-ce que je fous dans cette galère? Et puis on s'arrête, et puis on fait une grande balade, et à ce moment, on va dans des canyons, alors de toutes les couleurs, c'est magnifique. Je dis, tiens, c'est peut-être un pèlerinage en profondeur qu'on va nous proposer. On repart, et le lendemain, dans les ruines de l'église, d'une vieille église byzantine, il y a le frère... Benoît Joseph des Béatitudes de Toulouse qui nous fait une très belle homélie et qui nous dit notamment une chose que j'ai retenue. Il me dit, mais Dieu, ça s'attrape pas avec la tête, ça s'attrape avec le cœur, il faut lâcher prise. Bon, je lui dis, de toute façon, j'étais là, assis sur ma colonne tronquée. Je dis, de toute façon, il n'y a que ça à faire, hein, par le désert là autour, je vais jouer le jeu, on verra bien. J'ai débranché les neurones.
Et alors là?
Et ben voilà. Et puis j'ai suivi mon pèlerinage et je me suis mise à pleurer. C'est moi qui pleurais jamais. Hein. Trois larmes de temps en temps, mais maintenant je pleure. Comme vous avez vu, maintenant je pleure et je me suis mise à pleurer. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Puis on avançait sur toute la route. Alors j'écoutais, je dis, vois bien ce que c'est quelque chose, il y a quelque chose qui va me faire tilt. Ça peut pas, si Dieu existe, ça peut pas être qu'une idée quand même. Il va bien avoir quelque chose. Et puis, bon, alors je suivais, j'écoutais les homélies, les machins. Puis j'attendais la messe toujours avec impatience. J'y allais pas beaucoup avant. Et puis j'ai même, alors c'était all inclusive, alors j'ai pris confession. Donc, confession, piètre confession, depuis quand avez-vous dernière confession? Je devais avoir 7 ans. Du temps copier sur sa voisine pour savoir quel péché on allait dire au curé. Et voilà, et il m'a donné un autre père. Tu diras un père tous les jours. Oh, ouf, je m'en sors bien, tout va bien, un autre père tous les jours. Et puis voilà, bon, donc, et puis le chemin de croix. Alors là, ça m'a bouleversé, le chemin de croix. J'avais l'impression d'y être et de voir mon fils au pied de la croix, voir sur la croix. Je me dis, tiens, Jésus est là pour sauver le monde, sauver.
Vous êtes très ému, oui.
C'est
normal.
Désolé. Oui.
Non, soyez pas désolé.
Non, mais
Olivier
bon.
Aussi est ému en écoutant votre témoignage. Vous l'avez déjà raconté tout ça?
Je le raconte pas très souvent parce que c'est pas facile, mais donc voilà, donc ce chemin de croix, m'a bouleversé, mais. Mais qu'est-ce qui me faisait dire que Dieu existait? Toujours rien. J'ai repris mon avion avec les autres. Et je suis rentrée. Puis là, je pleurais tout le temps. Et le Notre Père tous les jours en boucle. Dieu, si t'existes, présente-toi. Dieu, si t'existes, présente-toi. Et donc, comme ça, ça durait plus d'un mois. Alors, j'appelais mon bon curé, là, mon père Benoît Genève, en disant, écoute, voilà ce qui m'arrive quand même. Je me suis mis à lui écrire en disant, voilà ce qui m'arrive. C'est malin, hein, ton lâcher prise. J'ai l'air de quoi maintenant? Si ça tombe, c'est une déprime qui va me tomber dessus, c'est pas possible. Bon, les circonstances faisaient que, après tout, tout pouvait être compréhensible, alors que je suis pas du tout un tempérament déprimé. Et puis voilà, donc je me traînais littéralement avec mon autre père Henri Tournel. Et un jour, j'ai des amis qui me voyant tristounette m'ont dit, allez viens, on t'emmène voir un film drôle, Potiche. Dieu a de l'humour, Potiche. Potiche, c'est ce film avec Catherine Deneuve là, en bourgeoise déjantée. Et donc, j'étais là devant ce film, qui me faisait pas moyennement rire d'ailleurs, et puis j'étais là en disant, qu'est-ce que je fous là? Ben, notre père. De nouveau, et je lui dis, écoute, Dieu, je suis en train de me casser la figure, si t'existes, tu te présentes. Et à ce moment-là, j'ai senti une boule qui tournait en moi avec une explosion d'amour, mais totale. Total, c'était du bout des doigts au bout des cheveux, enfin c'était pas humain, c'était divin. C'était divin, et je me dis, mais Dieu existe, et il est amour.
Et là, tout change.
Ça change. Ah bah, où ça change? Ah bah, vous êtes groggy d'abord, hein. Je me pince en disant, attends, qu'est-ce qui me passe? Moi, je suis pas du genre évaporé, hein, donc je suis plutôt les pieds par terre. Et ben voilà, Dieu existe. Il est amour. Non, mais ça, c'est encore le deuxième, encore plus important. Enfin, les deux d'ailleurs. Mais... Ouais.
Olivier, ouais. En entendant le récit de Catherine, votre épouse, ça vous touche, enfin, comme nous tous, hein, d'entendre tout ça.
Ma femme, je l'ai sentie changer.
Et elle vous a changé?
Elle m'a changé, oui, parce que quand je la regarde, elle est toujours avec le sourire aux lèvres et toujours dans une admiration, un émerveillement, une adoration. Moi, j'ai bien compris que dès le jour où elle a appris la maladie de notre fils, elle devait se tenir comme un roc. Et tel que je l'ai comprise, le roc a fondu et elle est devenue toute tendresse et amour.
Arrêtez de rire, Catherine. C'est... Oui, donc tout a changé. Et vous êtes maintenant à Lourdes comme pèlerin. Voilà. Il y a eu du chemin depuis.
Bah oui, mais... Après ça, j'ai commencé par la chorale. Et puis après ça, je me suis engagé à retraite dans la ville. C'est la proposition des Dominicains de Lille.
Parce que je n'ai pas dit que vous êtes du Nord. J'aurais dû le dire.
Voilà,
et insister quand même. De Tournai, près de Lille.
Oui, c'est ça, du Nord. Oui.
Et donc, après, vous avez vous cheminé les uns les autres avec toutes ces propositions.
Ces engagements. Et puis, cette amie qui était venue nous proposer ce voyage, m'a proposé de venir en pèlerinage. Hein. Moi, c'était pas mon truc. Hein, mais...
En pèlerinage à Lourdes.
À Lourdes. Moi, les Ave Maria et les processions, c'était pas mon truc, a priori, ni les piscines.
Alors, vous souriez parce que, en dehors du micro, Catherine appelait les piscines les bains-douches.
Oui, pardon.
Alors que ce sont les piscines de Lourdes, l'eau de la source qui est canalisée pour aller s'y baigner à la demande de la Vierge qui a dit allez boire à la source et vous y lavez. Mais vous y allez, Catherine.
J'y suis allée. Le premier regard un peu dur sur Lourdes, quand on arrive, on voit surtout les marchands du temple et les... qui sont pourtant charmants, hein, adorables tous. Mais c'est un peu brutal, cette laideur de l'entrée du
sanctuaire.
Et puis on se prend au jeu, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se prend au jeu. Hein. Et ben on y va, on participe à tout. On rate pas une conférence parce que quand même les Dominicains ils savent faire, hein, ils sont pas mauvais là-dessus.
Oui, puisque vous êtes au sein du Rosaire, hein, le rappel organisé par la famille dominicaine, par les frères et les sœurs.
Enfin, les autres sont peut-être aussi bien, mais enfin, oui. Moi je connais celui-là. Donc.
Et ça fait 3 ans
Et donc la première année, je suis venue en pèlerine, et ce qui est top. Hein. Moi, je le conseille à tout le monde, même à ceux qui n'aiment pas les processions, les Ave Maria. Il y a autre chose aussi. Ouais. Et voilà. Et puis ces célébrations qui sont magnifiques, et puis on fait partie du peuple de Dieu, et là on le sent. Et là on le sent.
Alors vous, Olivier, vous êtes cette année pèlerin.
Oui. Hein, oui.
Alors que Catherine, elle est au service. Voilà. Oui. Donc le pèlerin est heureux, le pèlerin Olivier, ça se passe bien.
Il est heureux, il est libre de choisir les différentes conférences, d'être à l'écoute des autres, des parcours des uns et des autres. Et puis ma conviction, c'est qu'il faut aller à l'essentiel et avoir un peu de discernement et comprendre que la vie, ce sont les autres, être en harmonie avec les autres, et que de plus en plus, il faut servir l'autre et non pas l'argent. Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu, mais c'est aussi quelque chose de très très compliqué dans notre monde actuel.
Donc le temps est un peu suspendu quand on est à Lourdes, non, Catherine?
Oui.
Mais
on court tout le temps.
Mais on court tout le temps.
Tout le temps, oui.
Enfin, vous, parce que vous êtes au service.
Non, mais même quand on va d'une conférence à l'autre, hein, on court. Mais...
Donc pour terminer cette émission, en fait, le conseil que vous donnez à ceux qui nous écoutent, c'est où que vous en soyez dans votre chemin de foi, dans votre vie personnelle, spirituelle, ça ne peut pas vous faire de mal d'aller en pèlerinage.
Alors, mais c'est top, hein, c'est top.
Ah oui.
Ah bah oui, moi je trouve ça super. J'imaginais pas. Oui, j'imaginais pas beaucoup de choses d'ailleurs, mais mais voilà, sur un tas.
Oui, on conseille de s'inscrire à un pèlerinage, quel qu'il soit.
Bah oui, c'est...
Ça peut changer la vie.
C'est la vie, c'est l'essentiel. Je ne vais pas dire la sagesse, mais c'est l'important. C'est l'amour.
C'est profond, puis il y a beaucoup de bienveillance, de voir tous ces gens. Il y a la fraternité. On sent la fraternité ici, qu'on ne sent pas toujours dans la vie ou autre. C'est peut-être plus difficile, tandis que là, c'est très sensible.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Je sais que ça n'est pas simple de témoigner, de raconter des choses aussi fortes et aussi intimes. Merci à vous, Olivier. Merci à vous, Catherine. Et on vous souhaite un bon pèlerinage.
Merci.
Et à bientôt.
Sûrement,
sur
je sais
ce temps,
pas.
Pourquoi
oui.
pas
hein Pourquoi pas, oui.
Ouais. Mmh. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au
passage à Lourdes.
Présence. Un euro, c'est le prix d'un journal quotidien. À combien estimez-vous le prix d'une présence à vos côtés 24 heures sur 24?